Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Vaccin, climat, diplomatie. À l'issue du sommet du G7, les dirigeants saluent un front uni et un nouvel élan grâce à l'arrivée de Joe Biden. Le G7 veut mettre fin à la pandémie et annonce qu'1 milliard de doses de vaccins seront distribuées dans les pays pauvres. Richard Place dans un instant. Séance très mouvementée à la Knesset, le Parlement israélien. Les députés doivent voter la confiance à la nouvelle coalition, la fin dans le règne de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Le général Lecointre quitte ses fonctions de chef d'état-major des armées. Il sera remplacé par le général Burkhard qui deviendra le troisième chef d'état-major des armées du président Macron. Dans ce journal également, le club de rugby de Biarritz qui se défend après la mise en cause du préfet des Pyrénées-Atlantiques pour non-respect des règles sanitaires lors du match Biarritz-Bayonne. Un peu de clémence, demande Maider Arostegui, la maire de Biarritz.
J'appelle plutôt à la clémence, effectivement, un rappel à l'ordre. Et en tout cas, je souhaite qu'il n'y ait pas de conséquences trop lourdes sur l'avenir du club.
Vos rendez-vous dit 19h, la page sport avec au menu une finale incroyable en ce moment à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Les deux joueurs entament le 5e set. L'Euro de football avec la 3e journée avant l'entrée des Bleus dans la compétition mardi face à l'Allemagne. Et puis nous irons dans le quartier du Terraillon à Bron, le quartier de Karim Benzema. Notre coup d'œil sur l'agenda et les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. Le temps pour demain au beau fixe et les premiers épisodes de Forte Chaleur. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux.
Je m'appelle Astrid, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir si les animaux ont la notion du temps.
Les petits bateaux, Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
Le premier G7 de l'après-Trump, beaucoup plus calme, sans porte qui claque ni esclandre, et avec des promesses d'agir ensemble entre alliés contre la pandémie et le réchauffement climatique. Joe Biden a donc rejoint le club des dirigeants des grandes puissances lors de ce sommet que le président américain a qualifié d'extraordinairement productif et collaboratif. Et parmi les annonces, les dirigeants du G7 se sont engagés à distribuer 1 milliard de doses de vaccins dans les pays pauvres et en solidarité, la France se donnera 60 millions de doses, comme l'a expliqué Emmanuel Macron à la tribune du G7.
Nous nous sommes engagés à travers ce G7 à vacciner au moins 60% de la population mondiale d'ici l'année prochaine, avec ce point de passage de 40% d'ici la fin de l'année. À ce titre, le G7 s'est engagé à partager 1 milliard de doses supplémentaires, dont la moitié à la fin de l'année. La France, dans ce cadre-là, a doublé ses propres engagements en passant de 30 à 60 millions de doses partagées d'ici la fin de l'année. De manière très concrète, l'Union africaine sera destinataire de 5 millions de doses d'ici la fin de l'été. Nous avons aussi obtenu que le G7 appelle collectivement le secteur privé à nous accompagner sur le modèle de ce qui avait été fait lors de la grippe H5N1 avec un partage de 10% des doses produites. C'était une demande que j'avais pu formuler il y a quelques semaines et rappeler il y a quelques jours, et cela a été endossé par l'ensemble des membres du G7.
Bonsoir Richard Place, correspondant de France Inter à Londres et envoyé spécial en Cornouailles. Le G7 promet donc plus de vaccins, il promet d'agir pour le climat. C'est donc une nouvelle relation qui s'ouvre, plus apaisée, avec l'allié américain.
Oui, le mandat de Donald Trump aura été douloureux pour la coopération internationale, le fameux multilatéralisme. Il y a un vrai soulagement parmi les autres nations à reprendre des échanges constructifs avec Joe Biden. Mais attention à ne pas laisser Washington mener la danse. La place est restée vacante pendant 4 ans et nous avons su faire face. C'est en substance ce que retient Emmanuel Macron. Il prépare ainsi le sommet de l'OTAN qui débute demain à Bruxelles. Il évoque par exemple la relation qu'il faut entretenir avec la Chine, travailler avec elle sur le climat ou le commerce mondial, tout en s'opposant à elle sur le travail forcé ou la question des droits de l'homme. Pour peser dans ces échanges, notamment face aux États-Unis, le président français met en avant l'Union européenne, acteur important, inévitable à ses yeux. Et dire ça au Royaume-Uni, ce n'est évidemment pas innocent. Dans le pays du Brexit, face à un Boris Johnson jamais avare de critiques sur l'Europe, c'est une façon aussi, pour Emmanuel Macron, de renvoyer le Premier ministre britannique à son isolement volontaire.
Richard Place, en direct de Carlisbee. À l'étranger, en Israël, ambiance tendue à la Knesset. Le Parlement israélien doit voter la confiance au projet de coalition du changement. Naftali Bennett, le chef de la droite radicale, assure que sa coalition représentera l'ensemble d'Israël. De son côté, Benjamin Netanyahou assure qu'il reviendra. En direct de Jérusalem, on retrouve notre correspondant Frédéric Mettezo. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
C'est donc une séance particulièrement chaotique et on dit balagan chez vous ?
Exactement, le balagan, le bazar en hébreu, et encore je suis poli. Les plus anciens nous disent qu'ils n'ont jamais vu de séance d'investiture se dérouler comme ça. Quand Naftali Bennett, l'aspirant Premier ministre qui souhaite succéder à Netanyahou, a pris la parole, il a été conspué. Certains députés ont brandi des affiches, des drapeaux, l'ont invectivé. Le discours de Bennett devait durer 15 minutes. Eh bien, il en a duré 45, tout simplement parce que toutes les trois phrases, il était interrompu. Mais bon, Naftali Bennett a su rester calme. Il a déroulé ses arguments, il a promis qu'aujourd'hui ce n'était pas un jour de deuil pour Israël, mais un changement de gouvernement comme cela se passait dans toutes les démocraties. Puis, cela a été le tour de Benjamin Netanyahou. Pugnace, très motivé, la voix posée, lui n'a pas été interrompu et il a pris carrément 35 minutes au lieu des 15 qui lui étaient impartis. Benjamin Netanyahou promet qu'il siégera dans l'opposition la tête haute et il a dit en anglais « We will be back soon », nous serons de retour bientôt, histoire qu'un maximum de personnes comprennent ce qu'il veut dire. Les débats continuent en ce moment à la Knesset, le vote est prévu dans quelques minutes. Les débats se font aussi dans la rue, manifestations anti-Netanyahou devant sa résidence, devant le Parlement, au mur des lamentations, des prières de juifs ultra-orthodoxes qui prient contre Naftali Bennett. Et puis, à Tel Aviv, une fête se prépare pour le départ de Netanyahou qui n'a pas encore eu lieu, puisque le vote n'a pas encore eu lieu.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem. Merci. En bref, en Algérie, le principal parti islamiste modéré affirme arriver en tête des élections législatives. Le mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, met en garde contre les nombreuses tentatives de modifier les résultats du scrutin. Les résultats définitifs ne devraient pas être connus avant le milieu de la semaine prochaine. Et on apprend à l'instant que l'Algérie retire son accréditation à la chaîne de télévision France 24. C'était un départ attendu et planifié. Le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, quitte ses fonctions, annonce officialisée ce matin par l'Élysée. Le général Lecointre explique qu'il a souhaité partir pour éviter une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Il sera remplacé par le général Thierry Burcard, actuel chef d'état-major de l'armée de terre, qui aura pour mission de mettre en œuvre la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Le général Burcard est donc le troisième SEMA, chef d'état-major des armées du président Macron. Pierre Servant, expert en stratégie militaire avec Édouard Marguier.
C'est totalement inédit que sur un seul quinquennat, le président ait cramé de SEMA. Le général de Villiers, au mois de juin 2017, est prolongé pour un an par le président Macron. Et puis, finalement, il décide de démissionner parce qu'il a eu droit à des remontrances publiques du président. Donc, il a considéré que son honneur était atteint, donc il est parti. Pour le général Lecointre, c'est sans doute différent. Les militaires, vous savez, sont des grands sentimentaux. Le facteur humain, le facteur psychologique, le facteur d'amitié, de confiance est très, très important dans les armées. C'est un facteur essentiel. Est-ce que le président de la République il a toujours été sensible? Est-ce que son côté un peu chevau léger a pu heurter le général Lecointre? Est-ce que ça l'a fatigué, entre guillemets? Là, c'est des interprétations, parce qu'évidemment, il n'y a que les deux hommes qui le savent. Mais c'est vrai que ce sont des choses que l'on peut entendre dans les coursives militaires.
Pierre Servant, expert en stratégie militaire. L'épidémie recule, les contaminations baissent, les vaccinations augmentent, un couvre-feu à 23h et le beau temps. Tous ces facteurs ont pu donner le sentiment que l'épidémie est derrière nous avec la multiplication ce week-end de débordements festifs, des soirées en plein air ou des rassemblements en dépit des consignes sanitaires qui inquiètent les autorités. À Biarritz hier, les débordements lors du match de rugby, le derby basque Biarritz-Bayonne, provoquent aujourd'hui encore des réactions et des condamnations. Non-respect des jauges et des règles sanitaires, le préfet des Pyrénées-Atlantiques estime aujourd'hui, 24 heures après le match, que la parole des dirigeants du club de Biarritz n'a pas été tenue. Le préfet Eric Spitz explique qu'il y aura des conséquences.
qu'il y avait eu 3 réunions pour régler jusqu'au plus infime détail le déroulé de ces matchs. Et je constate au Pays Basque, où la parole a une certaine importance, que cette parole n'a pas été tenue sur différents points. Le contrôle de jauge, l'absence de passe sanitaire pour certains spectateurs. Le club a organisé une vente d'alcool à emporter dans les buvettes, alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire. Et puis l'envahissement du stade, parce que tout simplement le nombre de stadiers que l'on avait demandé n'a pas été suivi d'effet.
Éric Spitz, préfet des Alpes, des Pyrénées-Atlantiques, la maire de Biarritz de son côté, Maider Arostegui, demande aux autorités de faire preuve d'indulgence. Les supporters se sont laissés emporter par le bonheur de la victoire.
J'appelle plutôt à la clémence, effectivement, un rappel à l'ordre. Et en tout cas, je souhaite surtout que l'avenir de ce club qu'on a retrouvé ne soit pas obéré, ne soit pas abîmé par ces sanctions. Bien sûr, je comprends la position du préfet et il a raison, il est dans son rôle. Mais je souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de conséquences trop lourdes sur l'avenir du club. Et c'est vrai que je pense qu'on était loin de se douter des manquements qui ont pu se passer, puisque autour de moi, les gens étaient masqués. Il y avait des passes sanitaires qui étaient obligatoires, donc en fait on avait fait très attention soit à faire des tests PCR ou à bien avoir nos QR codes à présenter. Donc nous étions loin de nous douter que nous étions dans cette situation-là.
Maider Arostegui, la maire du Biarritz. L'épidémie recule en France. En Afrique du Sud, en revanche, la situation est préoccupante. L'Afrique du Sud va devoir jeter 2 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. Le pays à la traîne dans la vaccination et qui vient d'entrer dans une troisième vague de l'épidémie de coronavirus doit retirer ses doses en raison d'un problème de non-conformité. Des tests ont révélé que des composants du vaccin britannique AstraZeneca ont été mélangés par erreur à la formule du vaccin Johnson & Johnson, vaccin fabriqué dans la même usine aux États-Unis, sur place à Johannesburg. Romain Chanson.
Assembler localement des vaccins, c'est bien. Les produire intégralement, c'est mieux. Voici l'argumentaire développé par le président sud-africain depuis maintenant 8 mois et illustré par ce cas de contamination chez Johnson & Johnson. Grâce à un partenariat, le vaccin américain est assemblé en Afrique du Sud. En revanche, la formule n'a pas été partagée et la matière première est importée des États-Unis, ce qui explique le rejet de 2 millions de doses probablement contaminées avant leur assemblage en Afrique du Sud. Présent au sommet du G7, Cyril Ramaphosa a plaidé une nouvelle fois pour une levée temporaire des brevets sur la propriété intellectuelle. Si nous voulons mettre fin à la pandémie, nous devons étendre et diversifier les moyens de production. Un avertissement alors que la campagne vaccinale en Afrique du Sud accuse un dangereux retard. À Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
Rémi Daillé, le complotiste français, a été expulsé de Malaisie avec sa famille. Il est attendu en principe demain à Paris. Rémi Daillé, sous le coup d'un mandat d'arrêt, est devenu depuis une figure du mouvement complotiste. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et il est soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia en France mi-avril.
Oui, l'homme qui pourrait avoir commandité et financé à distance depuis la Malaisie l'enlèvement de la jeune Mia âgée de 8 ans, comme l'avait souligné le procureur de Nancy à la suite de l'arrestation des auteurs du rapt en France. On sait que Rémi Daillé, sa compagne qui est enceinte et ses 3 enfants avaient un visa qui avait expiré. Les autorités malaisiennes ont donc choisi la voie express de l'expulsion et pas la procédure d'extradition bien plus longue. Ce que dénonce Jean-Christophe Basson-Labry, il est l'avocat en France de Rémi Daillé, au micro de France Bleu Sud-Lorraine.
On les jette dans un avion en risquant la vie d'une femme et d'un enfant. On traumatise une famille pour des générations. Quand on met ça en balance avec le fait qu'on lui reproche des choses pour lesquelles il n'aurait même pas participé de toute façon directement, alors que la petite Mia a été retrouvée très vite, et tant mieux. Rémi Daillé est préjugé coupable par la France, tout service confondu, et il fait l'objet d'une cabale médiatique orchestrée de façon unanime depuis 3 mois. Comment aborder sereinement les éventuelles étapes et rendez-vous judiciaires qui l'attendent?
Et ce soir, lors de l'escale à Singapour, Rémi Daillé tente à nouveau de faire annuler son transfert. S'il redécolle à son arrivée à Roissy demain, ce suspect considéré par ses accusateurs comme un véritable gourou, complotiste, pourrait être placé en détention provisoire, en attendant d'être présenté sous 4 jours au juge d'instruction en charge de ce dossier, ou bien être transféré directement en Lorraine en vue de sa mise en examen.
Emmanuel Leclerc, merci. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir Frédéric.
Et je crois qu'on arrive au bon moment à Roland Garros qui n'a toujours pas livré son verdict.
Même si ça ne saurait tarder, peut-être, finale comme on les aime, finale au bout du suspense. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud. Bonsoir Nicolas.
Un cinquième set, match toujours en cours sur le court Philippe Chatrier entre le tombeur de Nadal, le Serbe Novak Djokovic et le Grec Stefanos Tsitsipas.
Un Grec qui dispute sa première finale en Grand Chelem et qui pour l'instant essaie de résister. En tout cas, il est au service. Il est mené 5-3 dans le cinquième et dernier set. Alors qu'il avait remporté les deux premiers, 7-6, 6-2. Il a perdu les deux autres, 6-3, 6-2 avec une baisse de régime. On a à l'instant craint également qu'il soit touché physiquement puisqu'il avait appelé les soigneurs pour son dos. Mais finalement, dans ce cinquième set, eh bien, malgré le fait qu'il ait perdu son service, il tient toujours, il résiste toujours, même si maintenant, eh bien, le score est de 5-4 pour Novak Djokovic qui, après le changement de côté, va servir pour le match, pour remporter cette finale de Roland-Garros. Et ce serait un événement, puisque vous savez que Novak Djokovic fait partie du Big Three, comme on dit en anglais, les trois grands avec Nadal et Federer, et que Novak Djokovic, eh bien, dans un coin de sa tête, il a un objectif immense. D'abord, c'est de remporter pour la deuxième fois Roland-Garros ce que n'ont pas fait Djokovic, ce que n'ont pas fait Nadal et Federer dans les autres tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire que ce serait le seul à avoir remporté tous les tournois du Grand Chelem au moins deux fois. Et finalement, Djokovic, il a aussi dans un coin de sa tête de gagner les quatre grands tournois majeurs cette année. Il y a évidemment l'Open d'Australie qui s'est déjà déroulé, il y a Roland-Garros qu'il est sur le point peut-être d'emporter, et puis il y aurait Wimbledon derrière avec l'US Open. Ce serait quand même une série monumentale, car jamais personne ne l'a fait dans une année civile depuis 1969, et un certain Rod Laver. Donc pour l'instant, ce soir, il y a un enjeu énorme pour cette fin de match. Djokovic qui est encouragé par les supporters du Central, mais on va dire que celui qui a les faveurs du public, c'est plutôt Stefanos Tsitsipas, qui lui découvrait une finale de Grand Chelem, et en plus il est face à un joueur de légende, c'est pas facile pour lui. Djokovic maintenant au service pour remporter son deuxième Roland-Garros avec celui de 2016, et pourquoi pas écrire un petit peu plus l'histoire du tennis, parce que ce serait aussi son 19e titre du Grand Chelem. Federer et Nadal en ont 20 chacun.
Djokovic qui va donc servir pour le match. Merci Jean-Pierre Bimaud, vous restez évidemment avec nous, hein. Vous nous prévenez dès qu'il y a un vainqueur, même si ça peut encore durer.
L'Euro de football, troisième journée, est toujours difficile, Nicolas, d'oublier le traumatisme de Copenhague.
Oui, ce malaise qui a choqué le monde entier hier soir. Christian Eriksen, milieu de terrain danois, qui s'effondre en plein match face à la Finlande. Image choquante, hein, qu'on a tous eue et qui reste celle d'un footballeur professionnel de 29 ans, dont la vie, sans doute, a été sauvée par l'intervention rapide des secours. Ce soir, les nouvelles sont toujours rassurantes. Les images et la polémique. Fallait-il vraiment reprendre ce match moins de deux heures après son interruption? L'UEFA répond que ce sont les joueurs qui ont décidé. À cette nuance près, ils ont eu à décider entre deux choix, reprendre hier à 20h30 ou aujourd'hui à midi. C'est inacceptable pour l'ancien gardien de but Peter Schmeichel, dont le fils Kasper fait partie de la sélection danoise.
It is absolutely ridiculous that UEFA come up with a solution like that.
C'est totalement ridicule que l'UEFA soit arrivée à une telle solution quand quelque chose d'aussi terrible arrive, et que l'UEFA demande aux joueurs de choisir entre reprendre le match hier soir, une heure après, ou aujourd'hui à midi. Mais c'est quoi cette option ? Vous rentrez à l'hôtel, vous n'arrivez pas à dormir parce que ça a été très traumatisant, et vous devez retourner sur le terrain ? Ce n'est pas une option, c'est une décision ridicule de la part de l'UEFA.
Voilà Christian Eriksen, le joueur concerné, qui est toujours hospitalisé ce soir.
Et l'Euro qui se poursuit, trois matchs au programme aujourd'hui.
Oui, qui est terminé, victoire de l'Angleterre, 1-0 face à la Croatie, but de l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling. Le deuxième en cours, l'Autriche face à la Macédoine du Nord. On est dans la deuxième période, le score 1-0. Le troisième, Frédéric, débutera à 21h, l'entrée dans la compétition des Pays-Bas qui affronteront l'Ukraine.
Et les Bleus, ils font leurs valises, ils vont quitter Clairefontaine.
Ouais, dernière journée au quartier général de l'équipe. Demain, vol pour Munich ou l'Allemagne. L'Allemagne les attend après-demain. Bon timing pour régler les derniers malentendus. Et c'est ce qu'a fait Kylian Mbappé cet après-midi. Conférence de presse très attendue du prodige français, ciblé, vous le savez, dernièrement par des propos pas très confraternels d'un autre attaquant, Olivier Giroud, le second, sous-entendant que le premier, il oubliait un peu trop souvent sur le terrain. Alexandre Vaux, Kylian Mbappé lui répond comme il le fait sur la pelouse, de manière plutôt offensive.
D'abord, Kylian Mbappé a reconnu cet après-midi avoir été affecté par les propos d'Olivier Giroud qui, interrogé sur sa discrétion avant ses deux buts mardi, avait répondu après le match « discret parce que des fois, on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas ». Kylian Mbappé ne conteste pas les propos sur le fond, mais sur la forme, et s'en est expliqué.
Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Je suis attaquant, il exprime un sentiment quand il parle. Quand tu as le sentiment qu'on te sert pas, c'est plus voilà de le sortir publiquement, voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même beaucoup plus virulent dans un vestiaire. Moi, ça m'est arrivé. Je pense que vous connaissez un peu comment je suis dans le vestiaire. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire.
Et puis, il y a la question du profil du joueur avec lequel on évolue. Autre explication donnée par Kylian Mbappé, dont le jeu peut mieux correspondre, selon lui, à Karim Benzema ou Antoine Griezmann, ses deux nouveaux compères en attaque. Mais après deux bons matchs de préparation des Bleus, le crack de Bondy s'est surtout assuré que les étincelles soient bien éteintes avant de démarrer la compétition mardi soir contre l'Allemagne. Munich, Alexandre Vaux, France Inter.
À la fin de la polémique, ou pas deux jours de ce France-Allemagne.
Les 24 heures du Mans pour Suzuki.
Oui, première depuis 2015 pour la marque japonaise, la Suzuki numéro 1, pilotée notamment par les Français Greg Black et Sylvain Guintoli, s'impose sur le célèbre circuit Bugatti. En cyclisme, encore une victoire pour Ineos après Richie Porte sur le Dauphiné. Richard Carapaz adjuge le Tour de Suisse. L'équipe britannique en forme, hein, décidément, à deux semaines du grand départ du Tour de France en Bretagne. Et puis, ils espéraient mieux en handball. Le PSG est non, on a dû se contenter de la petite finale cet après-midi à Cologne, qui accueille le Final Four de la Ligue des Champions. C'est Paris qui s'impose 31 à 28.
Et à deux jours du premier match de l'équipe de France face à l'Allemagne, on va s'intéresser au roi du terraillon à Bron, Karim Benzema, vraie idole de ce quartier populaire dans la banlieue de Lyon. Le retour de Karim Benzema en équipe de France a-t-il un effet sur les quartiers sensibles? Alors ce que je vous propose, on va aller à Roland-Garros pour suivre la balle de match et on ira à nouveau au quartier terraillon de Bron. Nicolas Perronnet.
Balle de match pour Djokovic, Jean-Pierre Bimo.
Oui, une balle de match qui est négociée par Novak Djokovic à l'instant, mais sauvée par Stefanos Tsitsipas. Un passing longue ligne, faut avoir les nerfs solides, hein, bien accroché en tout cas. Il existe encore dans cette finale, le Grec. Pour la première fois hein, de sa jeune carrière à 22 ans, il a l'occasion peut-être, hein, s'il renverse la situation, de s'imposer en tournoi du Grand Chelem. Novak Djokovic, qui en a gagné déjà 18, a donc galvaudé la première de ses balles de match. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, pour l'instant, 40 partout et toujours 5-4 pour le Serbe dans le dernier set.
Merci, on va peut-être suivre le service à l'instant de Novak Djokovic. C'est une deuxième balle de match, si j'ai bien compris, Jean-Pierre Bimo.
Ah non, il y a 40 partout, il faudrait qu'il gagne 2 points pour s'imposer.
Je ne voyais pas les résultats, l'écran est beaucoup trop loin. Pardonnez-moi, on reviendra vous trouver tout à l'heure lorsqu'il y aura un avantage. Donc direction le quartier Terraillon de Bron, près de Lyon, les pros et anti-Benzema. Le débat entre les pros et les anti-Benzema est souvent présenté comme la révélation d'une certaine fracture sociale. Et après plus de 5 ans de brouille, le retour de Benzema est reçu avec joie dans ce quartier. Guillaume Batin est retourné dans le quartier du Terraillon à Bron, le quartier de Benzema. C'est le long format de ce soir.
Le stade Léo Lagrange, là où tout a commencé, à quelques mètres de l'appartement familial de Karim Benzema, Anour, 15 ans, termine son petit match entre copains.
Moi vraiment, à chaque fois que je viens ici, j'ai envie de devenir comme lui et voilà. Surtout quand il est revenu en équipe de France, ça fait plaisir. Parce qu'au début, on ne comprenait pas trop pourquoi Didier Deschamps ne le prenait pas, et alors qu'il faisait du bon travail.
Les plus âgés, eux, connaissent l'histoire. À 200 mètres à vol d'oiseau, les premières tours du Terraillon, le quartier populaire de Bron. En sortant du bureau de tabac, Ahmed reconnaît que 5 ans et demi sans Benzema l'ont un peu déconnecté des Bleus.
Le jour de la liste, on a tous célébré comme une petite victoire, parce que c'est quand même un peu une revanche, parce qu'on se sentait quand même un peu moins représenté depuis qu'il était pas là. Tu vois. Moi, personnellement, j'ai été très très fier d'avoir vécu la Coupe du Monde 2018. Ils m'ont quand même fait rêver. Mais c'est vrai qu'on avait quand même un petit goût amer de voir ça sans Benzema. Il manquait quelque chose.
Dans ce quartier où l'on peut croiser régulièrement les proches de l'attaquant du Real Madrid, où son beau-frère gère une pizzeria, la main tendue de Didier Deschamps va bien au-delà du football. Amir, maillot de l'Olympique Lyonnais sur les épaules.
On nous a toujours présenté le fait qu'il ne soit pas sélectionné par rapport à ses problèmes avec la justice ou par rapport au fait que Deschamps n'ait pas accepté le fait qu'il ait dit qu'il est cédé à une partie raciste de la France. Mais moi, en tant que Français de quartier populaire avec des origines, on ne prend pas un joueur qui me ressemble, derrière, il y a forcément un message. On le voit comme ça. Donc c'est peut-être un peu basique, c'est un peu simplifier les choses, mais on le voit comme ça. Et là, on est content qu'ils soient repris et on espère qu'ils vont gagner l'Euro.
Le terraillon derrière les Bleus, un Benzema nouveau, Tahar Ounas, lui aussi espère le meilleur parcours possible. Le président du club local commence déjà à récolter les fruits de la réconciliation.
En ce moment, on en parle beaucoup avec les gamins là, du club. Karim, c'est pas que le foot, il y a aussi beaucoup de choses dans le quartier. C'est un quartier quand même qui est assez difficile. C'est un lien fort ici qu'on a ensemble avec les gens. S'ils pouvaient montrer qu'on peut réussir comme il le fait, c'est bien.
En faisant toujours la fierté du quartier, mais cette fois avec un maillot bleu.
Benzema du Terraillon à Bron avec Guillaume Batin. On retourne à Roland-Garros. Cette fois, c'est fait. Bravo Djokovic, Jean-Pierre Bimeau qui remporte son 19e titre.
Du Grand Chelem, oui, avec une deuxième balle de match qui aurait été la bonne contre Stefanos Tsitsipas, qui pourtant avait remporté les deux premiers sets, 7-6, 6-2. Ensuite, baisse de régime du grec, 6-3, 6-2 pour Djokovic. Djokovic qui fait le break dans la cinquième manche, alors que Tsitsipas avait déjà sauvé une première balle de match, eh bien Novak Djokovic s'est imposé finalement, alors qu'à l'instant, Stefanos Tsitsipas est en pleurs, sa serviette sur la tête, alors que Djokovic évidemment rayonne. C'est le premier joueur de l'histoire du tennis à avoir gagné au moins deux fois les quatre titres du Grand Chelem, Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie et Roland-Garros.
Merci Jean-Pierre Bimeau. Et donc Novak Djokovic qui gagne Roland-Garros face à Stefanos Tsitsipas.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec deux rendez-vous importants à noter pour la jeunesse, la vaccination ouverte aux adolescents aux 12-17 ans à partir de mardi. Et puis c'est la semaine du bac pour les élèves de première avec les épreuves de français ainsi que pour les élèves de la voie professionnelle et pour les terminales en filière générale. La philo, c'est jeudi avant le grand oral dans une semaine et à quelques jours du bac philo. Comment se sentent les lycéens? Pas trop stressés? Sonia Princé a posé la question à Inès. Elle est élève au lycée Montesquieu à Herblay, dans le Val-d'Oise.
Je me sens prête. La philosophie et le grand oral, j'ai commencé à préparer tout doucement ces épreuves et ça va le faire. Ça va, j'ai révisé quand même tout au long de l'année, donc on verra bien comment ça se passera. Ça me rassure parce qu'on a quand même le contrôle continu, donc j'ai déjà une certaine sécurité et je sais que j'aurai déjà une moyenne. Ils ont adapté en fait avec la situation du Covid, etc. Et je pense qu'ils ont bien fait les choses. C'est bien qu'ils nous aient laissé quand même des épreuves à passer parce que sinon c'est plus un vrai bac. Et ouais, ils ont quand même mis une grande partie en contrôle continu, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de... Moi, personnellement, j'ai pas trop de stress sur ça, donc ça va. J'appréhende pas trop, en tout cas, mes résultats de bac. Je pense que personne ne l'a vraiment, à part ceux qui sont très bas dans leur moyenne ou qui ont un peur pour le bac, mais je pense qu'on est assez serein. C'est vrai que par rapport aux années antérieures, je pense qu'il n'y a pas de stress.
Voilà un agenda raccourci. Je vous signale quand même l'agenda judiciaire avec deux rendez-vous. Demain lundi, le procès en appel de Willy Bardon, condamné à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement et le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Et puis mardi, Nicolas Sarkozy à la barre au procès Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle en 2012. Et puis on terminera la semaine avec le premier tour des élections régionales et départementales. Au générique de cette édition, Adèle Caglar et Guillaume Roux en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Benjamin Ducy et Sébastien Donat. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Maintien de température tout à fait estivale demain, avec d'ailleurs une hausse des valeurs prévue dans la partie nord du pays. Il fera entre 24 et 26 degrés sur le littoral de la Manche, 29 à Rouen, Nancy et Lille, 30 à 32 du côté de Rennes, Tours, Nantes, Paris, Strasbourg, Bourges, Dijon et Besançon. Dans la moitié sud, il est prévu 33 degrés à Grenoble et 34 à 35 en basse vallée du Rhône, sur l'Occitanie et le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Le tout sous un soleil très rayonnant, mais avec l'après-midi un risque d'averse qui va se développer sur le sud des Alpes, le massif central et la montagne Corse, tandis que sur les Pyrénées, des orages, parfois de grêle, vont éclater l'après-midi. Et puis en fin de journée, ce temps orageux va déborder sur les plaines du sud-ouest.
Jean-Michel Golinski de Météo France.